Chapitre 51. Novembre allait finir, ils étaient ensemble la dernière et suprême fois. Ce toujours même rayon de soleil sur la maison d'en face leur envoyait pour un moment encore avant le soir, dans le petit harem pauvre et caché au cœur de Stamboul, sa lueur réfléchie et comme factice. La pâle Zeynep au visage dévoilé et l'invisible Djenan, perdu dans le noir de ses draperies, causaient avec leur ami André aussi tranquillement qu'au cours de leurs entrevues ordinaires. On eût dit que cette journée aurait des lendemains, que la date du 30 novembre, désignée pour trancher tout, n'était pas si proche, ou peut-être même n'arriverait point. Vraiment, rien n'indiquait que jamais, jamais plus après cette fois-là, ils ne réentendraient sur terre sonner leur voix. Zeynep, sans apparente émotion, combinait des moyens de s'écrire quand il serait en France. La poste restante est maintenant trop surveillée. En ces temps de terreur que nous traversons, plus personne n'a le droit d'entrer dans les bureaux sans se nommer. Notre correspondance, au contraire, sera très sûre par le chemin que j'ai imaginé. Un peu long seulement. Ne vous étonnez donc pas si nous tardons quelquefois 15 jours à vous répondre. Djenan exposait avec sang-froid ses plans pour au moins apercevoir encore son ami le soir même de ce 30 novembre. À 4 heures de l'horloge de Tophanen, qui est l'heure où les paquebots partent, nous passerons toutes deux le long du quai. Ce sera dans la plus ordinaire des voitures de louage, vous m'entendez bien. Nous passerons aussi près que possible du bord, et vous, de la dunette où vous vous tiendrez, veillez bien tous les fiacres pour ne pas nous manquer. Il y a toujours foule par là, vous savez, et comme des femmes turques n'ont jamais le droit de s'arrêter, ça durera le temps d'un éclair, notre adieu. Ce soir, c'était leur rayon de soleil en face qui devait leur marquer le moment précis de la séparation. Quand il disparaîtrait au faîte du toit, André se lèverait pour partir. Ils s'étaient convenus de cela dès le début. Ils s'étaient accordé cette limite extrême après laquelle tout serait fini. André, qui d'avance s'était figuré les trouver douloureusement vibrantes à cette entrevue suprême, restait confondu devant leur calme. Et puis il avait bien compté revoir les yeux de Djenan ce dernier jour. Mais non, les minutes passaient et rien ne bougeait dans l'arrangement du tcharchaf sévère, ni dans les plis de ce voile, sans doute aussi nitidement baissé que s'il était de bronze sur un visage de statue. Vers 3h30, enfin, tandis qu'il parlait du livre pour dire quelque chose, une presque soudaine pénombre vint envahir le petit harem, et tous les trois en même temps firent silence. « Allons, » dit simplement Zeynep de sa jolie voix malade, en montrant de la main les fenêtres grillagées qui s'éclairaient plus le reflet de la maison voisine. Le rayon venait de se perdre au-dessus des vieux toits. C'était l'heure, et André se leva. Pendant la minute de l'extrême fin, où ils furent debout les uns devant les autres, il eut le temps de penser. Cette fois était la seule, bien la seule, où j'aurais pu la regarder encore, avant que ses yeux et les miens retournent à la poussière. Être si absolument sûr de ne plus jamais la rencontrer, et cependant partir sans l'avoir revue, non, il ne s'attendait pas à cela. Mais il en subit la déception et l'angoissante mélancolie, sans rien dire. Sur la petite main qui lui était tendue, il s'inclina cérémonieusement pour la baiser du bout des lèvres, et ce fut tout l'adieu. Maintenant, les vieilles rues désertes, les vieilles rues mortes, par où il s'en allait seul. « Cela a très bien fini, se disait-il. Pauvre petit emmuré, cela ne pouvait mieux finir. Et moi, je m'imaginais fatuitement que ce serait dramatique. C'était même plutôt trop bien, cette fin-là, car il s'en allait avec un tel sentiment de vide et de solitude. Et une tentation le prenait de retenir sur ses pas vers la porte au vieux frappoir de cuir, pendant qu'elle pouvait y être encore. À Jenan, il aurait dit: « Ne nous quittons pas ainsi, cher petit ami. Vous qui êtes gentil et bon, ne me faites pas cette peine. Montrez-moi vos yeux une dernière fois, et puis serrez ma main plus fort, je m'en irai moins triste. » Bien entendu, il n'en fit rien et continua sa route. Mais à cette heure, il aimait avec détresse tout ce Stamboul, dont les milieux de feu du soir commençaient à se refléter dans la mer. Quelque chose y attachait désespérément. Il ne définissait pas bien quoi, quelque chose qui flottait dans l'air au-dessus de la ville immense et diverse, sans doute une émanation d'âme féminine. Car dans le fond, c'est presque toujours cela qui nous attache aux lieux ou aux objets. Des âmes féminines qu'il avait aimées et qui se confondaient. Était-ce de Nedjibé ou de Jenan ou d'elles deux? Il ne savait trop. Chapitre 52. Deux lettres du lendemain. Zeynep à André. Vraiment, je n'ai pas compris que nous nous voyions hier pour la dernière fois. Sans cela, je me serais traîné comme une pauvre malheureuse à vos pieds et je vous aurais supplié de ne pas nous laisser ainsi. Oh, vous nous laissez perdus dans les ténèbres de l'esprit et du cœur. Vous, vous allez à la lumière, à la vie, et nous nous végéterons nos jours lamentables, toujours pareils, dans la torpeur de nos harems. Après votre départ, nous avons eu des sanglots. Zeritcht, la bonne nourrice de Jenan, est descendue. Elle nous a grondé beaucoup et nous a pris dans ses bras. Mais elle aussi, la pauvre âme, pleurait de nous voir pleurer. Zeynep. J'ai fait rencontre, remettre ce matin chez vous, d'humbles souvenirs turcs. La broderie de la part de Jenan, c'est l'ayette, le verset du Coran, qui depuis son enfance veillait au-dessus de son lit. Acceptez les voiles de moi. Celui brodé de rose est un voile circassien qui m'a été donné par mon aïeul. Celui brodé d'argent était dans les coffres de notre yali. Vous les jetterez sur quelques canapés dans votre maison de France, Zeynep. Jenan à André. Je voudrais lire en vous quand le navire doublera la pointe du sérail, quand à chaque tour d'hélice s'enfuiront les cyprès de nos cimetières, nos minarets, nos coupoles. Vous les regarderez jusqu'à la fin, je le sais. Et puis plus loin, déjà dans la Marmara, vos yeux cherchant encore près de la muraille byzantine, le cimetière abandonné, où nous avons prié un jour. Et enfin, pour vos yeux, tout se brouillera, les cyprès de Stamboul et tous les minarets et toutes les coupoles, et dans votre cœur bientôt, tous les souvenirs. Oh, qu'ils se brouillent donc et que tout se confonde. La petite maison d'Eyoub, qui fut celle de votre amour, et l'autre pauvre logis au cœur d'Istanbul, près d'une mosquée, et la grande demeure triste où vous êtes une fois entré en fraude. Et qu'elles se brouillent aussi, toutes ces silhouettes, l'aimé d'autrefois, qui près de vous allait dans son fedjé gris, le long de la muraille, parmi les petites marguerites de janvier. Je suivis un sentier appelé son ombre, et ces trois autres plus tard qui voulaient être vos amis. Confondez-les toutes, confondez-les bien, et gardez-les ensemble dans votre cœur. Dans votre mémoire, ce n'est pas assez. Elles aussi, celles d'aujourd'hui, vous ont aimé plus que vous ne l'avez cru peut-être. Je sais que mes yeux auront des larmes lorsque disparaîtra le dernier cyprès. Et je veux, pour moi, une larme. Et là-bas, quand vous serez arrivés, comment penserez-vous à vos amis? le charme rompu, sous quel aspect vous apparaîtront-elles? C'est atroce de se dire que peut-être il ne restera rien, que peut-être vous hausserez les épaules et vous sourirez en y repensant. Quelle hâte et quelle frayeur j'ai de le lire, ce livre où vous parlerez des femmes turques, de nous. Y trouverai-je ce que je cherche en vain à découvrir depuis que nous nous connaissons, le fond de votre âme, le vrai intime de vos sentiments, tout ce que ne révèlent ni vos lettres brèves, ni vos paroles rares. J'ai eu quelquefois, bien souvent senti en vous l'émotion, mais c'était si tôt réprimé, si furtif. Il y a des moments où j'aurais voulu vous ouvrir la tête et le cœur pour savoir enfin ce qu'il y avait derrière vos yeux froids et clairs. Oh, André, ne dites pas que je divague. Je suis malheureuse et seule. Je souffre et me débat dans la nuit. Adieu, plaignez-moi. Aimez-moi un peu, si vous pouvez. Jenan. André répondit. Il ne vous reste plus grand-chose à découvrir. Allez derrière mes yeux, froids et clairs. Je sais bien, moi, ce qui se passe derrière les vôtres, chère petite énigme. Vous me la reprochez toujours, ma manière silencieuse et fermée. C'est que j'ai trop vécu, voyez-vous. Et quand il vous en sera arrivé autant, vous comprendrez mieux. Et vous croyez que vous n'avez pas été glacial, vous, hier, au moment de nous quitter? Donc, à demain soir, 4 heures, au triste quai de Galata. Dans ce tohu-bohu des départs, je veillerai bien. Je n'aurai d'autres préoccupations, je vous assure, que de ne pas manquer le passage de votre chère silhouette noire, puisque c'est tout ce que vous me laissez le droit de regarder encore. André. Chapitre 53. Le jeudi 30 novembre est arrivé, prompt et sans merci, comme arriveront empressées toutes les dates décisives ou fatales, non seulement pour chacun de nous, celles où il faudra mourir, mais celles après qui verront tomber les derniers de notre génération, finir l'islam et disparaître nos races au déclin, puis celles encore qui amèneront la consommation des temps, l'anéantissement et l'oubli des tourbillons de soleil dans les souveraines ténèbres. Vite, vite, il est arrivé ce jeudi 30 novembre, date quelconque et inaperçue pour la majorité des êtres si divers que Constantinople voit s'agiter dans ses foules. Mais pour Jenan, pour André, date marquant un de ces tournants brusques où la vie change. À l'aube froide et grise, tous deux s'éveillèrent presque en même temps, tous deux sous le même ciel, dans la même ville, pour quelques heures encore, séparés seulement par un ravin rempli d'habitations humaines et par un bois de cyprès rempli de morts, mais en réalité très loin l'un de l'autre à cause d'invisibles barrières. Lui fut saisi par l'impression du départ dès qu'il ouvrit les yeux, car il n'habitait plus sa maison, mais campait à l'hôtel. Il s'y était du reste perché le plus haut possible pour fuir le tapage d'en bas, les casquettes des globetrotteurs d'Amérique et les élégances des aigrefins de Syrie. Et surtout pour avoir vu encore sur Stamboul avec Eyoub au lointain. Et tous deux, Déjane et André, Jenan et André, interrogèrent d'abord l'horizon, l'épaisseur des nuées, la direction du vent d'automne, l'un de sa fenêtre largement ouverte, l'autre à travers l'oppressant, l'éternel quadrillage de bois où s'emprisonnent les harems. Ils avaient souhaité pour ce jour un temps lumineux et le rayonnement nostalgique de ce soleil d'arrière-raison qui parfois vient épandre sur Stamboul une tiédeur de serre. Lui, c'était pour emporter dans ses yeux avides, mans et affolés de couleurs, une dernière vision magnifique de la ville aux minarets et aux coupoles. Elle, c'était pour être plus sûre de réussir à l'apercevoir encore une fois, de ce quai de Galata, en passant le long de son navire en partance, car autrement, rien ne lui causait plus intime mélancolie que ces pâles illuminations roses des beaux soirs de novembre, et depuis longtemps elle s'était dit que, s'il fallait, après qu'il serait parti pour jamais, rentrer s'ensevelir chez soi par un de ces couchers de soleil languide et tout en or, ce serait plus intolérable que sous la morne tombée des crépuscules pluvieux. Mais voilà, par temps de pluie, tout deviendrait plus compliqué et plus incertain. Quel prétexte inventer alors pour une promenade? Comment échapper à l'espionnage redoublé des eunuques noirs et des servantes? Or, la pluie s'annonçait à n'en pas douter pour tout le jour. Un ciel obscur, remué et tourmenté par le vent de Russie, de gros nuages qui couraient bas, presque à toucher la terre, enténébrant les lointains et inondant toute chose, du froid et de la mouillure. Et Zeynep aussi, par sa fenêtre, aux vitres ouvertes, regardait le ciel, indifférente à sa propre conservation, aspirant longuement l'humidité glacée des hivers de Constantinople, qui déjà, l'année précédente, avait développé dans sa poitrine les germes de la mort. Puis tout à coup, il lui sembla qu'elle gaspillait les minutes utiles. Ce n'était pourtant que ce soir, à 4 heures, le départ d'André. Mais elle ne se tint pas d'aller chez Jenan, comme elle l'avait promis hier. Toutes deux avaient à revoir ensemble leurs plans, à combiner de plus infaillibles ruses, afin de passer bien exactement à leur voulu sur ce quai des paquebots. Il demeurait encore là pour presque un jour, lui, dont l'agitation causée par sa présence, le trouble et le danger continuaient de les soutenir. Elle se sentait active et fébrile. Tandis qu'après, oh, après, ce serait la replongée soudaine dans ce calme où il n'y aurait plus rien. Pour André, au contraire, la journée commençait dans la mélancolie plutôt tranquille. L'immense lassitude d'avoir tant vécu, tant aimé et tant de fois dit adieu endormait décidément son âme à l'heure de ce départ, que d'avance il s'était représenté plus cruel. Avec surprise, presque avec remords, il constatait déjà en soi-même une sorte de détachement avant d'être en route. D'ailleurs, il fallait couper court, se disait-il. Quand je serai loin, tout ira mieux pour elle. Tout s'arrangera, hélas, sous les caresses de Hamdi. Mais quel ciel décevant pour le dernier jour! Il avait compté dans une flânerie triste et douce au soleil de novembre, aller encore jusqu'à Istanbul, mais non, impossible avec ce temps d'hiver. Ce serait finir sur des images trop décolorées. Il se passerait donc par les ponts, plus jamais, et resterait dans ce Péra insipide et crotté, à s'ennuyer en attendant l'heure. 2 heures. Temps de quitter l'hôtel pour se diriger vers la mer. Avant de descendre, il y eut cependant l'infinie tristesse du dernier regard jeté de la fenêtre, vers cet Eyoub et ces grands champs des morts que l'on n'apercevrait plus d'en bas, ni de Galata, ni de nulle part. Tout au loin, dans le brouillard, au-delà d'Istanbul, quelque chose comme une crinière noire dressée sur l'horizon, une crinière de 1000 cyprès que, malgré la distance, on voyait aujourd'hui remuer, tant le vent les tourmentait. Après qu'il eut regardé, il descendit donc vers ce quartier bas de Galata, toujours encombré d'une ville populace, levantine, qui est la partie de Constantinople la plus ulcérée par le perpétuel contact des paquebots et par les gens qu'ils amènent et par la pacotille moderne qu'ils vomissent sans trêve sur la ville des califes. Ciel sombre, ruelles feutrées de boue gluante, cabarets immondes empestant la fumée et l'alcool anisé des Grecs, cohue de porte-ferraillons et troupes de chiens galeux. De tout cela, le soleil magicien parvient encore à faire de la beauté parfois. Mais aujourd'hui, quelle dérision sous la mouillure de l'hiver. 4 heures maintenant, on sent déjà baisser le jour de novembre derrière l'épaisseur des nuages. C'est l'heure officielle du départ, et l'heure aussi où doit passer lentement la voiture de Jenan pour le grand adieu. André, sa cabine choisie, ses bagages placés, se tient à l'arrière sur la dunette, entouré d'aimables gens des ambassades qui sont venus pour le reconduire, tantôt distrait de ce qu'on lui dit par l'attente de cette voiture, tantôt oubliant un peu celles qui vont passer pour répondre en riant à ceux qui lui parlent. Le quai, comme toujours, est bondé de monde. Il ne pleut plus. L'air est plein du bruit des machines, des treuils à vapeur et des appels, des cris lancés par les portefaix ou les matelots en toutes les langues du Levant. Cette foule mouillée qui hurle et se coudoie, c'est un méli-mélo de costumes turcs et de langues européennes, mais les fesses bien rouges sur toutes les têtes font quand même l'ensemble encore oriental. Le long de la rue, derrière tout ce monde, les cafés regorgent de levantins, des figures coiffées de bonnets rouges garnissent chaque fenêtre de ces maisons en bois, perpétuellement remplies de musiquettes orientales et de fumées de marguilliers. Et ces gens regardent, comme toujours, le paquebot en partance. Mais au-delà de ce quartier interlope, de cette bigarrure de costumes et de ce bruit, au-delà, séparé par les eaux d'un golfe qui apporte une forêt de navires, le grand Stamboul érige ses mosquées dans la brume. Sa silhouette, toujours souveraine, écrase les laideurs proches, domine de son silence le grossier tumulte. Mais ne viendront-elles pas, les pauvres petites? Voici qu'André les oublie presque dans cette griserie inévitable des départs, occupé qu'il est à distribuer les poignées de main, répondre à des propos d'insouciante gaieté. Et puis, il n'est plus bien certain si c'est lui en personne qui s'en va. Tant de fois il est monté sur ces mêmes paquebots, enfin de ce même quai, de ces mêmes foules, venant reconduire ou recevoir des amis, comme c'est l'usage à Constantinople. Du reste, cette ville de Stamboul, profilée là-bas, est tellement sienne, presque sa ville à lui depuis plus d'un quart de siècle. Est-ce possible qu'il la quitte bien réellement? Non, il lui semble que demain, il y retournera comme d'habitude, retrouvant les endroits si familiers, les visages si connus. Cependant, le second coup de la cloche du départ achève de sonner. Les amis qui le conduisaient s'en vont, la dunette se vide. Ceux-là seuls qui doivent prendre la mer restent en face les uns des autres et s'observent. Il n'y a pas à dire, il a tinté un peu lugubrement ce second coup de cloche, le dernier. Et André alors se ressaisit. Ah! Cette voiture là-bas, ce doit être cela? Un coupé de louage, bien quelconque, mais elle l'avait annoncé telle, et qui avance avec plus de lenteur encore que l'encombrement ne l'exigerait. Il va passer tout près. La glace est baissée. Là-dedans, ce sont bien deux femmes voilées de noir. Et l'une soulève brusquement son voile, Jenan. Jenan qui a voulu être vue. Jenan qui le regarde la durée d'une seconde, avec une de ces expressions d'angoisse qu'ils ne peuvent pas oublier jamais. Ses yeux resplendissaient au milieu de ses larmes, mais déjà ils n'y sont plus. Le voile est retombé, et cette fois André a senti que c'était quelque chose de définitif et d'éternel, comme lorsqu'on vous cache une figure aimée sous le couvercle d'un cercueil. Elle ne s'est point penchée à la portière, elle n'a pas fait un adieu à la main, pas un signe. Rien que ce regard, qui suffisait du reste pour mettre une femme turque en danger grave. Et maintenant, le coupé de louage continue lentement sa marche, et il s'éloigne à travers la foule pressée. Cependant, ce regard-là vient de pénétrer plus avant dans le cœur d'André que toutes les paroles et toutes les lettres. Sur le quai, ces groupes de gens qui lui disent adieu de la main ou du chapeau n'existent plus pour lui. Il n'y a au monde à présent que cette voiture là-bas qui s'en retourne lentement vers un harem. Et ses yeux, qui voudraient au moins la suivre, tout à coup s'embrument, voient les choses comme oscillantes et troubles. Mais quoi? Alors, c'est qu'il rêve. La voiture qui cheminait toujours au pas, on dirait qu'elle s'éloigne rapidement quand même, et dans un sens différent de celui où les chevaux marchent. Elle s'en va par le travers comme une image que l'on emporte, et tout s'en va avec elle. Les gens, ce grouillement de peuple, les maisons, la ville. Ah, c'est le paquebot qui est parti. Sans un bruit, sans une secousse, sans qu'on ait entendu tourner son hélice. La pensée ailleurs, il n'y avait pas pris garde. Le grand paquebot, entraîné par des remorqueurs, s'éloigne du quai sans qu'on le sente remuer. On dirait que c'est le quai qui fuit, qui se dérobe très vite, avec sa laideur, avec ses foules, tandis que le grand Stamboul, étant plus haut et plus lointain, ne bouge pas encore. La clameur des voix se perd, on ne distingue plus les mains qui disent adieu, ni la caisse noire de cette voiture au milieu des mille points rouges qui sont des fesses turques. Toujours, sans que rien n'ait semblé remuer à bord, et dans un silence presque soudain que l'on n'attendait pas, Stamboul lui-même commence de s'estomper sous le brouillard et le crépuscule. Toute cette Turquie s'efface avec une sorte de majesté funèbre, dans le lointain, bientôt dans le passé. Et André ne cesse de regarder aussi longtemps qu'un vague contour de Stamboul reste dessiné au fond des grisailles du soir. Pour lui, de ce côté-là de l'horizon, persiste un charme d'âme et de forme féminine, de celle qui s'en allait tout à l'heure dans cette voiture, et des autres déjà dissoutes par la mort. La tombée de la nuit dans la Marmara. André songe. À cette heure-ci, elles viennent d'arriver chez elles. Et il se représente ce qu'a dû être leur trajet de retour, puis leur rentrée à la maison sous les regards inquisiteurs, et enfin leur enfermement, leur solitude de ce même soir. On est encore tout près. Ce phare qui vient de s'allumer à petite distance et brille sur l'obscurité de la mer, c'est celui de la pointe du Sérail. Mais André a l'impression d'être déjà infiniment loin. Ce départ a tranché comme d'un coup de hache les fils qui reliaient sa vie turque à l'heure présente, Et alors, cette période, en réalité si proche, mais qui n'est plus retenue par rien, se détache, tombe tout à coup au fond de l'abîme où s'anéantissent les choses absolument passées. Chapitre 54. À son arrivée en France, il reçut ces quelques mots de Jenan. Quand vous étiez dans notre pays, André, quand nous respirions le même air, il semblait encore que nous vous apparteniez un peu. Mais à présent, vous êtes perdu pour nous. Tout ce qui vous touche, tout ce qui vous entoure, nous est inconnu. Et de plus en plus, votre cœur, votre pensée distraite nous échappe. Vous fuyez, ou plutôt c'est nous qui pâlissons jusqu'à disparaître bientôt. C'est affreux de tristesse. Quelque temps encore, votre livre vous obligera de vous souvenir, mais après, j'ai cette grâce à vous demander. Vous m'en enverrez tout de suite les premiers feuillets manuscrits, n'est-ce pas? Hâtez-vous. Ils ne me quitteront jamais. Où que j'aille, même dans la terre, je les emporterai avec moi. Oh, la triste chose que le roman de ce roman! Il est aujourd'hui le seul terrain où je me sente sûr de vous rencontrer. Il sera demain tout ce qui survivra d'une période à jamais finie. Jenan. André aussitôt envoya les feuillets demandés. Mais plus de réponse, plus rien pendant 5 semaines, jusqu'à cette lettre de Zeyneb. Kassim Pacha, le 13 Ziladat 1323. André, c'est demain matin que l'on doit conduire notre cher Jenan à Istanbul, dans la maison de Handi Bey, une seconde fois, avec le cérémonial usité pour les mariés. Tout a été conclu singulièrement vite, toutes les difficultés aplanies. Les deux familles ont combiné leurs démarches auprès de Sa Majesté impériale pour que l'iradé de séparation fût rapporté. Elle n'a eu personne pour la défendre. Hamdi Bey lui a envoyé aujourd'hui les plus magnifiques gerbes des roses de Nice, mais ils ne sont pas même revus encore. Car elle avait chargé Emiré Hanoum de lui demander comme seule grâce d'attendre après la cérémonie de demain. Elle a été comblée de fleurs. Oh, si vous pouviez voir sa chambre où vous êtes entré une fois, elle a voulu les y faire porter toutes, et on dirait un jardin d'enchantement. Ce soir, je l'ai trouvée stupéfiante de calme. Mais je sens bien que ce n'est que lassitude et résignation. Dans la matinée de ce jour où il faisait étrangement beau, je sais qu'elle a pu sortir, accompagnée seulement de Conjegul, pour aller aux tombes de Melek et de votre Nedjibé. Et sur la hauteur des Youbs, à ce coin du cimetière, où ma pauvre petite sœur, vous avez photographié ensemble, vous en souvenez-vous? Je voulais passer cette dernière soirée auprès d'elle. Nous avions fait ainsi, Melek et moi, la veille de son premier mariage. Mais j'ai compris qu'elle préférait être seule. Je me suis donc retiré avant la nuit, le cœur meurtri de détresse. Et maintenant, me voilà rentré au logis dans un isolement affreux. Je la sens plus perdue que la première fois, parce que mon influence est suspecte à Hamdi. On me tiendra à l'écart, oh, je ne la verrai plus. Je ne croyais pas, André, que l'on pouvait tant souffrir. Si vous étiez quelqu'un qui prie, je vous dirais priez pour moi. Je me borne à vous dire, ayez pitié, une grande pitié, de vos humbles amis, des deux qui restent. Zeyneb. Oh, ne croyez pas qu'elle vous oublie. Le 27 Ramadan, notre jour des morts, elle a voulu que nous allions ensemble à la tombe de notre Djedjibé, lui porter les fleurs, et nos prières, ce qui nous reste de notre foi perdue. Si vous n'avez pas reçu de lettre depuis plusieurs jours, c'est qu'elle était souffrante et torturée, Mais je sais qu'elle a l'intention de vous écrire longuement ce soir, avant de s'endormir. En me quittant, elle me l'a dit. Z. Chapitre 55. Mais le surlendemain arriva, se faire part. En Turquie, on n'envoie point de lettre de faire part pour les morts. On avertit les amis éloignés par un entrefilet de journal ou une note manuscrite, toujours à peu près dans la forme ci-dessous. Manuscrit dans lequel André, dès qu'il déchira l'enveloppe, crut reconnaître l'écriture de Djavid Hanoum. Allah! Feride Azade Jenan, fille de Tefuik Pacha de Hemzade et de Seminaoum Kerizen, vient de mourir ce 14 Zilkada 1323. Elle était née le 22 Rejdeb 1297 à Karadjiamir. Suivant sa volonté, elle a été inhumée dans le turbé des vénérés, Siad Sidi Youb, pour y dormir son dernier sommeil. Mais ses yeux, qui étaient purs et beaux, se sont rouverts déjà, et Dieu, qui l'a beaucoup aimé, a dirigé son regard vers les jardins du paradis, où Mahomet, notre prophète, attend ses fidèles. Nous tous qui mourrons, notre prière monte vers toi, ô Jenan Feride Azadeh, et te demande de ne pas nous oublier dans ton appel. Et nous, les humbles amis, nous arrivons et nous suivrons la voie lumineuse que tu nous auras tracée. Ô Jenan Feride Azadeh, que le Rahmet, la suprême miséricorde, le grand pardon divin qui efface tout. On dit toujours pour un mort dont le nom est cité, Allah Rahmet et il est soum. Dieu lui donne son Rahmet, comme on disait chez nous jadis, que Dieu est son âme. D'Allah descende sur toi. Kassim Pacha, 15 Zilkada, 1323. Il avait lu avec hâte et avec trouble, d'abord la forme orientale de cette note ne lui était pas familière, et puis tous ces noms différents qu'avait Jenan, il ne les connaissait pas à première vue, il le déroutait, et il fallut presque des minutes avant qu'il eût bien irrévocablement entendu qu'il s'agissait d'elle. Chapitre 56. Une longue lettre de Zeynep lui parvint 3 jours après, contenant une enveloppe fermée sur laquelle son nom André avait été écrit encore de la main de Jenan. Lettre de Zeynep. André, toutes mes souffrances, toutes mes détresses n'étaient que joie, tant que son sourire les éclairait. Tous mes jours noirs s'illuminaient d'elle. Je le comprends à présent qu'elle n'y est plus. Voici une semaine bientôt qu'elle est couchée sous la terre. Jamais je ne reverrai ses yeux profonds et graves où son âme paraissait. Jamais je n'entendrai plus sa voix ni son rire d'enfant. Tout sera morne autour de moi jusqu'à la fin. Jenan est couchée dans la terre. Je ne le crois pas encore, André, et pourtant j'ai touché ses petites mains froides. J'ai vu son sourire figé, ses dents nacrées entre ses lèvres de marbre. C'est moi qui suis allé près d'elle la première, qui ai pris la suprême lettre qu'elle avait écrite, la lettre pour vous, froissée et tordue entre mes doigts. Je ne le crois pas encore, et pourtant je l'ai vue raide et blanche. J'ai tenu dans mes mains ses mains de morte. Je ne le crois pas, mais cela est, je l'ai vue. Et j'ai vu son cercueil enveloppé du validé châle avec un voile vert de la Mecque, et j'ai entendu l'imam dire pour elle la prière des morts. Jeudi, ce jour même où nous devions la reconduire à Hamdi Bey, j'ai reçu un mot à l'aube avec une clé de sa chambre. Cette serrure qu'elle était si contente d'avoir obtenue, vous vous rappelez? C'est Conjagul qui m'apportait cela. Et pourquoi de si bonne heure? J'avais de l'effroi déjà en déchirant l'enveloppe. Et j'ai lu. Viens, tu me trouveras morte. Tu entreras la première et seule dans ma chambre. Près de moi, tu chercheras une lettre. Tu la cacheras dans ta robe et ensuite, tu l'enverras à mon ami. Et j'y suis allé en courant, je suis entré seul dans cette chambre. Oh, André, l'horreur d'entrer là. L'horreur du premier regard jeté là-dedans. Et je ne devais pas appeler, pas crier. Non, la lettre, je devais chercher la lettre. Des lettres, j'en voyais 5 ou 6 cachetées sur ce bureau près d'elle. Sans doute ses adieux. Mais il y avait aussi des feuillets épars. Et ce devait être ça, avec cette enveloppe prête qui portait votre nom. Et le dernier feuillet, celui que vous verrez froissé, je l'ai pris dans sa main gauche qui le tenait, crispé. J'ai caché tout cela. Et quand j'ai eu fait comme elle voulait, alors seulement, j'ai crié de toute ma voix et on est venu. Jenna, mon unique amie, ma sœur, pour moi il n'y a plus rien en dehors d'elle, après elle, ni joie, ni tendresse, ni lumière du jour. Elle a tout emporté au fond de sa tombe, où se dressera bientôt une pierre verte là-bas, vous savez, dans cet Eyoub que vous aimiez tous deux. Et elle aurait vécu si elle était restée la petite barbare, la petite princesse des plaines d'Asie. Elle n'aurait rien su du néant des choses. C'est de trop penser, de trop savoir qui l'empoisonnait chaque jour un peu. C'est l'Occident qui l'a tuée, André. Si on l'avait laissée primitive et ignorante, belle seulement, je la verrais là, près de moi, et j'entendrais sa voix. Et mes yeux n'auraient pas pleuré, comme ils pleureront des jours et des nuits encore. Je n'aurais pas eu ce désespoir. André, s'il était resté, la petite princesse des plaines d'Asie. Zeynep. La lettre de Jenan, André avait une pieuse frayeur de l'ouvrir. Ce n'était plus comme le faire part, dégageté si distraitement. Cette fois, il était averti. Depuis des jours, il avait pris le deuil pour elle. La tristesse de l'avoir perdue était entrée en lui par degrés avec une pénétration lente et profonde. Il avait eu le temps aussi de méditer sur la part de responsabilité qui lui revenait dans ce désespoir. Donc, avant de déchirer cette enveloppe, il s'enferma seul pour n'être troublé par rien dans son tête-à-tête avec elle. Plusieurs feuillets, et le dernier, celui d'en dessous, en effet, les doigts le sentaient tout froissé et meurtri. D'abord, il vit que c'était son écriture, des lettres habituelles, toujours sa même écriture aussi nette. Elle avait donc été bien maîtresse d'elle-même devant la mort, et elle commençait par ces phrases un peu rythmées, qui étaient dans sa manière, des phrases d'abord si calmes qu'André eût douté presque, lui qui ne l'avait pas vue raidie et blanche, lui qui n'avait pas eu le contact de sa main de morte. La lettre. Mon ami, il est venu de nous dire adieu. L'iradé par lequel je me croyais protégé a été rapporté. Zeynep m'a dû vous l'apprendre. Ma grand-mère et mes oncles ont tout préparé pour mon mariage et demain doit me rendre à l'homme que vous savez. Il est minuit et dans la paix de la maison close, point d'autre bruit que le grincement de ma plume. Rien ne veille hors ma souffrance. Pour moi, le monde s'est évanoui. J'ai déjà pris congé de tout ce qui m'y était cher. J'ai écrit mes dernières volontés et mes adieux. J'ai débarrassé mon âme de tout ce qui n'en est pas l'essence. J'en ai voulu chasser toutes les images pour que rien ne demeure entre vous et moi, pour me donner qu'à vous les dernières heures de ma vie, et que ce soit vous seul qui sachiez s'arrêter le dernier battement de mon cœur. Car, mon ami, je vais mourir. Oh, d'une mort paisible, semblable à un sommeil et qui me gardera joli. Le repos, l'oubli sont là, dans un flacon à portée de ma main. C'est un toxique arabe très doux qui, dit-on, donne à la mort l'illusion de l'amour. André, avant de m'en aller de la vie, j'ai fait un pèlerinage à la petite tombe qui vous est chère. J'ai voulu prier là et demander à celle que vous avez aimée de me secourir à l'heure du départ, et aussi de permettre à mon souvenir de se mêler au sien dans votre cœur. Et tantôt, je me suis rendu à Ayoub, seul avec ma vieille esclave, demander aux morts de me faire accueil. Parmi les tombes, j'ai erré, choisissant ma place. Dans ce coin où nous nous étions assis ensemble, je me suis reposé seul. Ce jour d'hiver avait la douceur de l'avril où mon âme, en ce même lieu, s'était donnée. Dans la Corne d'Or, au retour, du ciel il pleuvait des roses. Ô mon pays, si beau dans ta pourpre du soir, j'ai clos mes yeux pour emporter dans l'autre vie ta vision. Zeneb m'avait conseillé la fuite quand l'annulation de l'Iradé nous a été signifiée. Cependant, je n'ai pu m'y résoudre. Peut-être, si j'avais su trouver, sous un autre ciel, l'amour pour m'accueillir. Mais je n'avais droit de prétendre qu'à une pitié affectueuse. J'aime mieux la mort, je suis las. Un calme étrange règne en moi. J'ai fait apporter dans ma chambre de jeune fille, où vous êtes entrée un jour, toutes les fleurs envoyées par mes amis pour la fête du Dermin. Et en les disposant autour de mon lit, de la table sur laquelle j'écris, c'est à vous, ami, que je pense. Je vous évoque. Cette nuit, vous êtes mon compagnon. Si je ferme les yeux, vous voici froid, immobile. Mais vos yeux à vous, ces yeux dont je n'aurais jamais sondé le mystère, perce mes paupières closes et me brûle le cœur. Et si je rouvre mes yeux, vous êtes encore là, parmi les fleurs. Votre portrait me regarde. Et votre livre, notre livre, à part ces feuillets que vous m'avez donnés et qui me suivront demain, je m'en vais donc sans l'avoir lu. Ainsi, je n'aurais pas même su votre exacte pensée. Aurez-vous bien senti la tristesse de notre vie? Aurez-vous bien compris le crime d'éveiller des âmes qui dorment et puis de les briser si elles s'envolent? L'infamie de réduire des femmes à la passivité des choses? Dites-le, vous, que nos existences sont comme enlisées dans du sable et pareilles à de lentes agonies. Oh, dites-le, que ma mort serve au moins à mes sœurs musulmanes. J'aurais tant voulu leur faire du bien quand je vivais. J'avais caressé ce rêve autrefois de tenter de les réveiller toutes. Oh non, dormez, dormez, pauvres âmes. Ne vous avisez jamais que vous avez des ailes. Mais celles-là qui déjà ont pris leur essor, qui ont entrevu d'autres horizons que celui du harem, ô André, je vous les confie. Parlez d'elle et parlez pour elle. Soyez le défenseur dans le monde où l'on pense, et que leurs larmes à toutes, que mon angoisse de cette heure touche enfin les pauvres aveuglés qui nous aiment pourtant, mais qui nous oppriment. L'écriture maintenant changeait tout à coup devenait moins assurée, presque tremblante. Il est 3 heures du matin et je reprends ma lettre. J'ai pleuré, tant pleuré que je n'y vois plus rien. Oh, André, André, est-ce donc possible d'être jeune, d'aimer, et cependant d'être poussé à la mort? Oh, quelque chose me serre à la gorge et m'étouffe. J'avais le droit de vivre, d'être heureuse. Un rêve de vie et de lumière plane encore autour de moi. Mais demain, le soleil de demain, c'est le maître qu'on m'impose, ce sont ses bras qui vont m'enlacer. Et où sont-ils les bras que j'aurais aimés? Un intervalle témoignant d'un autre temps d'arrêt. L'hésitation suprême, sans doute, et puis l'accomplissement de l'acte irrévocable. Et la lettre, où, pour quelques secondes encore, reprenait sa tranquillité harmonieuse. Mais cette tranquillité-là a donné le frisson. C'est fini, il ne fallait qu'un peu de courage. Le petit flacon d'oubli est vide. Je suis déjà une chose du passé. En une minute, j'ai franchi la vie. Il ne me reste qu'un goût amer de fleurs aux lèvres. La terre me paraît lointaine et tout se brouille et se dissout. Tout sauf l'ami que j'aimais, que j'appelle, que je veux prendre près de moi jusqu'à la fin. L'écriture commençait à s'en aller de travers, comme celle des petits-enfants. Puis, vers la fin de la nouvelle page, les lignes chevauchaient tout à fait. La pauvre petite main n'y était plus, ne savait plus. Les lettres se rapetissaient trop, ou bien tout à coup devenaient très grandes, effrayantes d'être si grandes. C'était le dernier feuillet, celui qui avait été tordu et pétri pendant la convulsion de la mort, et les meurtrissures de ce papier ajoutaient à l'horreur de lire. L'ami que j'appelle, que je veux près de moi jusqu'à la fin. Mon bien-aimé, venez vite, car je veux vous le dire. Ne saviez-vous donc pas que je vous chérissais de tout mon être? Quand on est mort, on peut tout avouer. Les règles du monde, il n'y en a plus. Pourquoi, en m'en allant, ne vous avouerai-je pas que je vous ai aimé? André, ce jour où vous êtes assis là, devant ce bureau où je vous écris mon adieu, le hasard, comme je me penchais, m'a fait vous frôler. Alors j'ai fermé les yeux, et derrière mes yeux clos, quels beaux songes ont tout à coup passé. Vos bras me pressaient contre votre cœur, et mes mains emplies d'amour touchaient doucement vos yeux et en chassaient la tristesse. Ah, la mort aurait pu venir, elle serait venue en même temps que pour vous, la lassitude. Mais comme il eût été douce et quelle âme joyeuse et reconnaissante elle eût emporté. Ah, tout se brouille et tout se voile. On m'avait dit que je dormirais, mais je n'ai pas encore sommeil. Seulement, tout remue, tout se dédouble, tout danse. Mes bougies sont comme des soleils, mes fleurs ont grandi, grandi, je suis dans une forêt de fleurs géantes. Viens, André, viens près de moi. Que fais-tu là parmi les roses? Viens près de moi pendant que j'écris. Je veux ton bras autour de moi et tes chers yeux près de mes lèvres. Là, mon amour, c'est ainsi que je veux dormir. Tout près de toi et te dire que je t'aime. Approche de moi tes yeux, car de l'autre vie où je suis, on peut lire dans les âmes à travers les yeux. Je suis une morte, André. Dans tes yeux clairs où je n'ai pas su voir, y a-t-il pour moi une larme? Je ne l'entends pas répondre parce que je suis morte. Pour cela, je t'écris. Tu n'entendrais pas ma voix lointaine. Je t'aime, entends-tu au moins cela? Je t'aime. Oh, sentir ainsi, comme sous la main, cette agonie. Être celui à qui elle s'était obstinée à parler quand même, pendant la minute de grand mystère où l'homme s'en va. Recueillir la dernière trace de sa chère pensée qui venait déjà du domaine des morts. Et je m'en vais, je m'envole, serre-moi, André. Oh, t'aimeras-tu encore d'un amour si tendre? Oh, le sommeil vient et la plume est lourde. Dans tes bras, mon bien-aimé. Il se perdait et traçait à peine les derniers mots. Du reste, ni cela ni rien, celui qui lisait ne pouvait plus lire. Sur le feuillet froissé par la pauvre petite main qui ne savait plus, il appuya les lèvres pieusement et passionnément, et ce fut leur grand et leur vrai baiser. Ô Jenan Feydiazadeh, que le rahmet d'Allah descende sur toi, que la paix soit à ton âme fière et blanche, et puissent tes sœurs de Turquie, avant l'appel, pendant quelques années encore avant l'oubli, redire ton cher nom le soir dans leurs prières.